Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe en Suède, modèle de social-démocratie que je cite souvent en exemple, mais là ça coince un peu. Nous sommes le 14 juin 2018 à Eskilstuna, 70 000 habitants, dans le centre du pays. Ce jour-là, un texte est voté par la commune à la majorité absolue qui instaure la délivrance d'un permis de mendier. Pour reprendre les termes exacts, une autorisation des autorités policières pour la collecte passive d'argent est désormais obligatoire pour certaines zones géographiques. Concrètement, ça signifie que les personnes qui mendient doivent s'acquitter d'un permis de 150 couronnes, soit 15 euros, sous peine de devoir payer une autre amende. L'objectif affiché d'une telle mesure est, je cite, « recenser les personnes nécessiteuses et identifier les trafics ». Deux mois plus tard, après force bataille politique et juridique, d'autres villes suédoises autorisent même l'interdiction pure et simple de la mendicité dans certains lieux publics, au motif cette fois que les mendiants perturberaient l'ordre. Le modèle suédois n'est plus ce qu'il était. La France n'est pas en reste avec ses arrêtés anti-mendicité promulgués par certaines communes durant les périodes estivales pour ne pas gêner la soi-disant tranquillité des vacanciers. Sans parler de Besançon ou de Strasbourg qui ont étendu cette interdiction à juste tout le temps. Je rappellerai en préambule à cette émission, sur la Manche, vous l'aurez compris, qui l'a fait, pourquoi et combien il gagne, que la charité est une des trois vertus théologales du christianisme avec la foi et l'espérance, que la zakat ou aumône légale est un des trois piliers de l'islam. Je vous épargne les moines bouddhistes qui ne vivent que des dons de leurs fidèles et les sadhus, les hommes saints hindous, qui partent mendier sur les routes comme une ultime purification. Tout de suite à Paris, puis aux abords des gares de Valence, Lyon, Avignon, Reims et dans les rues de Marseille et Annecy, c'est un reportage de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Raymond, 73 ans, marié 9 ans. Alors, j'ai divorcé et après, le juge, il voulait donner une pension à ma femme. Alors que j'ai trouvé un mec dans le lit avec ma femme. Ah, ça fait des ordres, hein. Quand on divorce, il faut donner une pension à la femme. Et ben moi, j'ai dit au juge que je ne voulais pas lui donner des sous pour nourrir le mec qui est avec. C'est logique. Alors le juge, il a dit, on va vous saisir votre paye. Alors depuis, pour pas qu'il me saisisse, j'ai arrêté de travailler légalement. J'étais un petit chef comptable à la BNP, boulevard des Italiens, là, au siège. J'avais une bonne paye. J'ai bossé 20 ans déclaré et le reste au black. J'ai fait marchand de journaux, j'ai fait garçon de café, j'ai fait des ménageurs, plein de choses. J'ai une petite chambre d'hôtel que je paye avec ma retraite. J'ai 800 de retraite, la chambre c'est 800. À l'arrivée, ça fait quoi? Ça fait zéro. J'avais un copain qui faisait la manche, il me dit, bah fais comme moi. Puis il me dit, bon, bah j'ai fait comme lui, et puis hop. Je suis ici au Halle. Le matin, je vais à 6h, c'est comme si je vais au boulot, sauf le dimanche. Hein. Dimanche, on travaille pas. Hein. Je travaille 6 jours déjà. Hein. Je fais des bonnes manches. 30, 40 tous les jours. Ça va vite, 40 euros. Hein. Déjà, j'ai mangé, ça fait déjà 15 de partie. Je fais mon petit tiercé, je vais boire mon apéro de temps en temps. Il faut s'habiller. Les chaussettes, les slips, les pantalons, les blousons. Il y a des trucs de foyer pour en avoir, mais les vestiaires, non, je vais pas là-dedans, moi, j'aime pas, moi. Je me démerde tout seul. Pas les pleurer des trucs. Moi. Il y en a combien? Il y a une centaine le matin qui s'arrête. Il me dit bonjour, ça va, Raymond, t'as une pièce. Je suis pas venu lundi parce que j'avais de la tendinite. Mardi, ah pourquoi vous étiez pas là? Ah, toute la matinée, il fallait que je leur dise, j'avais de la tendinite. Ils sont curieux beaucoup les gens. Hein. C'est leur nom, c'est leur prénom, c'est leur boulot. C'est eux qui me racontent leur vie. Ah, mon mari, il commence à me casser les pieds. Ah bon? Ah là là, j'ai divorcé. Ah, j'ai une femme, elle passe tous les jours aussi, pendant un quart d'heure, j'ai mal là. À ma jambe. Le lendemain, c'est le bras. Le lendemain, la mal à la tête. Il a dit, mon mari, il dit que je suis hypochondriac. Et il veut me quitter. Ah, j'ai la peut-être raison. Alors, celle-là, elle me donnera plus jamais, je crois. Elle est fâchée. Ah non, non. Pas les gens qui se plaignent toujours. Alors, ça va? Je passe à la radio. À mardi. La femme de ménage du métro, là. Pareil, ils gagnent presque rien, eux. Ils sont au SMIC. Ils gagnent quoi? Il faut, je suis sûr, ils doivent faire un coup de 800, pas plus, hein. Je suis fier de moi. J'embête personne. Je vole personne. J'arrive à marcher, j'arrive à réfléchir, donc ça va. Là, les Roumains, ils sont à genoux, Eux, c'est commercial. C'est une mafia, ça. Alors, il y en a un qui a un bras cassé, bon, mais c'est pour faire pleurer les gens, tout ça. Le chef de la tribu, là, il les emmène au boulot en Mercedes. Et quand ils ont beaucoup d'argent, ils vont en Roumanie 2-3 mois. Et quand il n'y a plus de sous, ils reviennent en France. Ils ne couchent pas dehors, ceux-là. Il y a les Syriens, tout ça, les réfugiés, ils couchent dehors. À Stalingrad, il y en a beaucoup. Mais ceux qui font la manche ici, il ne faut pas pleurer pour eux. Ils sont plus riches que vous. C'est Chicago, vous pouvez faire dépouiller. Moi, j'ai été agressé 2 fois ici pour piquer la boîte. Les petits Roumains, ils courent et ils piquent la boîte. C'est pour ça que j'ai ces petites pièces dedans. Si je laisse 20 euros, ils vont me piquer les 20 euros. Ah, je suis bien dans mon élément, là. Je suis dans mon nuage comme ma copine. On s'entend très bien tous les deux. Là, j'ai une petite copine, elle est gentille, tout, elle est bien. Elle habite à côté de Roissy, c'est la campagne là-bas. 3 jours à la campagne, 3 jours après, je suis mort, je me suicide. Non, non, je ne vais pas parler avec une vache pendant 3 mois. Hein. Je suis habitué au bruit, je suis habitué aux gens. J'aime bien les gens. Il y a des cons aussi, comme partout. Hein.
Et un jour, vous bougerez d'ici?
Quand je serai mort.
Merci madame. Bon dimanche à vous.
Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. On choisit pas hein, d'être à la rue. Ça nous arrive et voilà, on fait avec. Hein. J'ai 32 ans. Je fais la manche. Ça va faire 3-4 ans. Avant je la faisais pas. Parce que j'arrivais pas à la faire. À demander aux gens. Déjà je demande pas. On me donne. Sinon, bonjour, au revoir, c'est tout. Si on vient parler, je parle, mais je vais pas accoster les gens ou les interpeller. C'est une forme de respect. C'est pas parce qu'on est à la rue qu'il faut se croire tout permis et perdre les notions de la vraie vie. Mais des valeurs, c'est la base. On n'a pas forcément envie de se faire accoster, avoir des gens insistants. Après, je préfère demander qu'à aller arracher le sac d'une vieille ou aller me mettre en la loi. Je vais pas raconter ma vie, mais bon, quand on est jeune, on fait des expériences. Ça fait pas plaisir hein, de demander aux gens de l'argent. C'est pas gratifiant. Rien faire, pas pouvoir se rendre utile, être actif. J'ai plus d'appart, j'ai peu de travail. J'ai pas de famille en France. Je suis français, mais je suis pas originaire de la France, je suis guadeloupéen. Là, j'ai des problèmes avec mes papiers, donc. Quand on a grandi dans les îles et qu'on atterrit en France, c'est un peu compliqué hein, à s'adapter. J'ai été émancipé jeune majeur. J'étais en foyer, dès le début, c'était un peu la galère, mais bon, j'ai travaillé, j'étais en foyer jeune travailleur. J'avais des conditions meilleures. Un apprentissage commis de cuisine, ça n'a pas marché, du coup j'ai arrêté.
Et vous dormez où?
Dans un sortie de secours, dans un parking.
Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous parlez?
You don't speak French?
Nous, qui se parle.
Bonne journée.
Correspondance métro A, direction Perrache. Hôtel de ville, Vaulx-en-Velin-la-Soie. Ouverture des portes à droite dans le sens de la circulation.
Je viens d'arriver là. Je viens de me réveiller. Pour l'instant, un peu mort. La drogue, j'ai commencé à 14 ans.
Vous avez quel âge?
Là, 43. Un peu toutes les drogues qui existent. J'en ai abusé, ça m'a fait perdre un peu la boule. Et du coup, voilà. Manque de confiance, je sais pas. Plus envie de grand chose. J'ai dit dans des pièces. J'ai fait ça 12 ans. Je squatte à droite à gauche là pour l'instant, entre Genève et Annecy. Je sais pas trop d'avenir pour l'instant, on verra bien. Je sais pas si ça va aller dans le bon sens, mais bon.
Vous êtes triste?
Un peu.
Je vous embête?
Un peu. Vous n'avez pas une aspirine par hasard sur vous?
J'ai rien du tout. Vous avez... Désolé. Vous appelez comment?
Philippe.
Vous demander de l'argent?
Ben, c'est bon manger, pardi. J'ai mis très bien Johnny, pareil.
Et vous voulez me faire une petite démonstration
non,
de
non,
Johnny?
Après, il pleut. Je veux pas qu'il pleuve tout de suite. Moi. Je veux surtout que tu me laisses travailler. Il faut des sous pour ce soir pour manger.
Bonne continuation et bon courage, José. Au revoir.
Le monsieur, c'est Jérôme, il m'a offert à manger. Faire la manche, c'est facile dans le sens où les gens ils sont assez généreux. Je me suis fait, moi je fais ça un peu avec de l'humour en fait. Je joue un jeu, un rôle. Des fois, je fais une petite blague, tiens, je vais organiser une fête pour fêter le million de personnes qui m'ont aidé avec un euro depuis je suis dans la rue. Donc il reste quelques euros à faire si vous voulez. C'est des petits trucs comme ça. Parce que j'arrive pas à faire pitié, j'arrive pas à arriver, j'ai faim, non. J'ai trouvé une carte Galerie Lafayette, il y avait 27 euros dedans, une carte Nicolas avec 160 euros. Des fois, ça m'est arrivé de faire 150 euros dans une matinée. Tu demandes sans arrêt, bah forcément, les gens ils vont donner 20 centimes par-ci, 1 euro par-là. Enfin, il y a des gens qui donnent 10 euros, 20 euros. Pas qu'en liquide, hein, avec l'hôtel compris. C'est un monsieur qui m'a payé l'hôtel, en fait, en tout, et puis il m'a dit, tiens, je t'achète des cigarettes, je te donne de l'argent pour des cigarettes. Je sais qu'en tout, il avait 360 euros, bah, il a payé l'hôtel avec pour moi, quelques jours, sans rien demander. Croyez-moi, des fois, on en a marre. On sait qu'on embête les gens. Mon prénom, c'est José. J'ai 40 ans. À la base, c'est parti d'un divorce. Je suis resté 20 ans avec mon ex-compagne. Et j'ai deux enfants, 16 et 9. C'est une fois que le divorce passé, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver. Mais c'est la séparation avec les enfants. J'avais envie de me réveiller, d'avoir le petit à côté de moi. Quoi. Le grand, c'est pas pareil, il est plus grand. Mais le petit, tout d'un coup, brutalement, pas l'avoir au réveil, ne pas pouvoir le prendre quand je veux, c'est... Je me suis rendu compte que j'avais une dépression. Je suis sorti sans rien. J'ai pris mes papiers, quelques vêtements. Je me disais, oh, 2-3 semaines, et puis je vais mettre en forme et je vais aller rebosser. Je conduisais des gros engins pour la SNCF. Je pouvais faire des fois de 700 à 1200 euros par semaine. J'ai fait toute la France. Marseille, Montpellier, Bordeaux, Toulouse... J'avais une voiture de fonction, je l'ai laissée, j'ai pas répondu à mon employeur. On se la salait quoi. Je bouge tout le temps, mais l'endroit où je dors, c'est l'horreur. Il y a beaucoup de monde dans les parkings. Ça m'est arrivé deux fois, de me réveiller, je me suis réveillé déjà avec un cutter là, pour le téléphone.
Dans le cou?
Ouais, juste une lampe d'écouteur, c'est rien, mais pour le téléphone. J'ai pas lâché le téléphone parce que j'ai toutes mes photos dedans, j'ai tous mes trucs de petits, donc j'ai pas lâché. En fait, il faut se défendre. Quand on dort par terre, c'est les gens de la rue qui se battent contre les gens de la rue. J'ai toujours un petit couteau avec moi, un couteau suisse. Celui qui sait où tu dors, eh ben, il est en avantage. J'avais un gros sac, j'avais plein de trucs, j'avais une tablette. C'était parti petit à petit. C'est pour ça qu'on se planque dans les immeubles. Et j'avais des baskets qui en étaient usées. Et là, il a plu beaucoup il y a 2 jours. Et c'était trempé. C'est là que je les ai trouvées. Et avec le manteau de fille, avec cette veste, c'est ridicule. Il y a un clown en fait. Avec des vêtements qui sont même plus propres. Je ne peux pas me présenter comme ça dans les enfants, c'est humiliant. C'est très dur. Jamais je pourrais aller voir le petit. Comment je vais lui expliquer ça? Je ressemble à quelqu'un de la rue. J'arrive plus à marcher, je boite parce qu'on a plein d'ampoules aux pieds. Déjà la dernière fois, il me demandait ça va pas parce que j'ai perdu 20 kilos.
Qu'est-ce que vous lui dites?
Oh, généralement que papa il travaille loin et puis pour venir le voir, je dors pas donc je suis fatigué, donc je prends le train. Faut pas qu'il le sache. Bah maintenant je me sens, je me regarde dans le miroir, j'ai vieilli 10 ans ma tête. C'est pas moi quoi. Et au bout d'un moment, on s'éloigne des gens en fait. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que je vois beaucoup de gens qui n'ont plus tout leur esprit dans la rue. Ils se tiennent fous, que ce soit à cause des drogues, à cause de l'alcool. Mais est-ce qu'au départ, ils n'étaient pas comme moi? Ils essayaient de se battre et ils n'ont pas réussi. Ça fait peur. Au début, je m'inquiétais pas, mais là, plus j'y pense, plus je suis déçu parce que En fait, on croit s'en sortir, mais non. Ça fait 2 mois que je vais pas avoir des enfants, là, j'ai pas le moral. Tout ce que je veux, c'est une chambre, hein, ou juste dormir en sécurité, une cave, peu importe. Avec une serrure, c'est tout. Et sortir de là-bas, comme si j'étais vous. Lavé, propre. Personne se rend compte et déjà ton moral il monte à 200%. De toute façon, je compte pas passer l'été. Hein. Il faut que je bosse. C'est mon dernier espoir. Hein. Parce qu'en été, c'est beaucoup plus facile de trouver du boulot déjà. Il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, surtout dans mon métier. Et je suis convaincu que je vais trouver du boulot. C'est par exemple là un défi. Écoutez, on vous donne 2 semaines. Vous avez une semaine pour vous reposer, une semaine pour trouver du boulot. Si c'est vraiment ce que je veux, je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Je vais me battre. Je suis sûr que ça va marcher.
Je m'appelle Fiona et j'ai 33 ans et j'habite à Reims. J'ai été SDF de mes 18 ans à mes 27 ans suite au décès brutal de ma maman. J'ai découvert son corps comme ça le jour de son anniversaire, donc je suis partie vraiment en courant et je suis allée me réfugier dans un bosquet avec une bouteille d'alcool en me disant que c'était pas possible et voilà. Mes parents étaient divorcés depuis que j'étais toute petite, hein. J'ai toujours vécu avec ma maman. Et je voyais mon papa un week-end tous les 15 jours et je me suis vraiment retrouvée toute seule. J'ai commencé vraiment à me mettre dans une bulle, sauf que ma mère avait souscrit à des crédits, Cofidis, etc. Et elle avait pas pris d'assurance. Du coup, moi, en acceptant la succession, je me suis retrouvée avec toutes les dettes. C'était dans les hauteurs des 10 000 euros, quelque chose comme ça. Donc les dettes se sont accumulées, après impossible de payer le loyer, les factures... En plus des dettes, les huissiers qui viennent toquer, enfin, l'engrenage, il vient hyper vite. Il y a eu un avis d'expulsion et ce jour-là, je me suis retrouvé avec un sac à dos, quelques affaires. J'ai été voir des personnes SDF que je connaissais. Ils m'avaient toujours dit, si t'as un souci, tu passes nous voir et on te filera un coup de main comme on peut, en fait. Et ils m'ont ramené au squat avec eux le premier soir, mais ils m'ont dit le lendemain, enfin, c'est pas un endroit pour toi. T'es trop jeune et tout, donc le lendemain on te ramènera à l'armée du salut. Je suis arrivée à l'armée du salut, c'était de la mise à l'abri, c'était pas une chambre, C'est en fait, ils mettent des matelas ou des lits de camp. Puis en fait, à mon réveil, bah, j'avais plus de chaussures et plus de sac. Il me restait quelques photos, 2-3 pantalons, 2-3 hauts, quelques paires de chaussettes. Ça a été ma première et ma dernière nuit en CHRS parce que ensuite je suis retournée voir les personnes qui m'avaient amené là, Rasta et Bounty. Et puis déjà en retournant en squat là, je me suis dit aussi ça va être que l'espace de quelques temps. Et je devais reprendre les cours en fait à la rentrée de septembre quand ma mère est décédée. Donc ça a un peu foiré les projets. On a des amis mais ils ont 18 ans aussi. Donc soit ils sont en chambre étudiante, soit ils sont chez papa-maman. Et papa-maman, bah ils vont héberger la copine une nuit, deux nuits. Donc j'ai continué de squat en squat. Après, quand il n'y avait pas de squat, c'était la tente. Et en fait, j'ai commencé à faire la manche vraiment environ un mois et demi, deux mois après avoir été vraiment à la rue. Tu vois tes potes le faire. Toi, t'oses pas parce que, enfin, il te reste encore une espèce de dignité, en fait. Au bout d'un moment, tu dis aussi que tu peux pas non plus toujours les laisser faire eux la manche et puis ramener à manger. Au bout d'un moment, tu ravales ta fierté et puis c'est hyper bizarre le premier jour quand même. J'ai passé 3 heures à faire la manche mais en pleurant parce que je me disais mais t'en es arrivé là quoi. Les autres jours, ça a été un peu mieux et puis après un peu mieux et puis au fur et à mesure du temps, hein, ton seul boulot, ça devient la manche. C'est le seul moyen d'avoir de l'argent. Juste à côté de la banque LCL. Chacun avait sa petite place attitrée. On se volait pas les places. En début de mois, enfin, quand les gens ont leur paye, il y a toujours un peu plus qu'en fin de mois, par exemple. Une fois, il y a un monsieur qui est venu et qui m'a quand même donné 30 euros. Le 24 décembre, il est arrivé, il m'a donné 30 euros. En faisant la manche, ça t'arrive pas tous les jours. Et puis voilà, on avait tous mis ensemble et puis on s'était fait un repas royal. On avait pris du foie gras, du saumon, on avait pris du champagne, on avait pris des pommes de terre mais qui étaient déjà cuites dans le rayon traiteur, on les avait mangées froides en salade. Voilà, on s'était vraiment fait un repas où on s'était fait plaisir et où il y avait vraiment de tout, quoi. Tout ce qu'on aimait était là. Ah non, c'était sympa. Malheureusement, je suis tombé très très vite dans la drogue au bout de même pas 3 mois, j'étais déjà dedans et je prenais de l'héroïne, de la cocaïne, du speed, de la kétamine. Je me suis jamais injecté quoi que ce soit dans les veines. Par contre, je sniffais. J'avais peur des aiguilles. C'était de la lâcheté. Je préférais m'enfermer dans la drogue et dans l'alcool parce que une fois bourré, une fois défoncé, tu réfléchis plus en fait. Puis quand tu vois que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, tu commences à perdre espoir et à dire, je vais finir comme ça, quoi. Et puis, je vais mourir un jour de froid ou de chaud parce que il y avait des jours où je prenais plus de prod que d'autres jours. Puis, un beau jour, j'ai rencontré un jeune homme au foyer où j'allais manger le midi à Ozanam. Il donnait des repas le midi, on pouvait faire laver son linge là-haut et puis prendre des douches. Il y avait un jeune homme là-bas qui bossait en cuisine et il sortait fumer ses clopes devant. Et puis un jour, on a commencé à se parler et puis à se parler un peu plus. Un jour, il m'a proposé de m'héberger dans sa chambre d'hôtel parce qu'il n'avait pas grand-chose non plus. En fait, il n'était pas d'ici. Ça faisait très peu de temps qu'il était sur Reims. Donc, il avait une chambre d'hôtel en attendant de trouver un appartement, et puis il m'a dit je peux pas faire grand chose mais si je peux te mettre un matelas par terre. Et je le sentais bien et du coup j'ai accepté. Au fur et à mesure du temps où on a vécu un peu ensemble, on est tombé amoureux, mais il y avait toujours le problème de la drogue. Je continuais à me droguer et lui supportait pas ça. On a décidé ensemble que vu que j'avais déjà essayé plusieurs sevrages médicamenteux, que ça avait pas marché, on a décidé de faire un sevrage sauvage, c'est-à-dire de m'enfermer dans sa chambre d'hôtel sans plus aucune drogue du tout. crise de tétanie, mal de ventre, énorme, grosse crise de manque, ton corps, il te réclame le produit, en fait. Tu te vomis dessus, t'as des bouffées de chaleur énormes, des maux de tête, sevrage hyper dur. Il m'a demandé d'arrêter de faire la manche aussi. J'ai fait ma demande de dossier RSA, qui m'a fait un bien fou, parce que bah du coup, qui dit RSA dit pouvoir ouvrir des droits au logement. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier appartement. En étant dans l'appart, en réapprenant, bah, je décide aussi de retourner un peu à l'école, de faire un DAU, une équivalence du bac. Parce que bah, retourner à la vraie école à 27 ans, c'est un peu compliqué. Je suis en pleine reconstruction professionnelle. Enfin voilà, j'aimerais vraiment me diriger vers le piercing. Je suis tatouée, percée, beaucoup moins qu'avant. Si on se met à calculer tatouage par tatouage sur la jambe, il y en a 12 sur ma jambe droite. C'est pas fini, hein, il reste encore plein de places. Donc il y a encore plein d'autres projets à venir. Et sinon, ouais, toujours accompagnée de Ali. Ça fera 9 ans au mois d'octobre. Et deux chiens, un chat. J'ai pas de quoi me plaindre, j'ai vraiment une belle vie, quoi. Think I'm gonna have myself a treat and get a one-way ticket for the beach. How come my head can spin so quick? I'm up to no good in a sec. I've been trying to leave you, but I don't know where to start. C'était Tendre la main, les gens de la rue, un reportage de Valérie Borst réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Raymond, à Philippe, à José, à Simon, à Fiona, à Patrick, d'Outre-Ligne, à Nicolas et à la Maraude, citoyenne rémoise. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.